Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Donald Trump fait du Donald Trump plus que jamais ce matin avec des sorties fracassantes. Il s'en prend, vous allez l'entendre, à Emmanuel Macron. Il menace la France de nouveaux droits de douane de 200% cette fois sur le vin et le champagne. Et il révèle des messages échangés avec le président français. On va prendre le temps de tout vous détailler. Nouvelle manifestation des agriculteurs aujourd'hui autour du Parlement européen de Strasbourg. Barreau d'honneur contre le Mercosur. Et puis début de 3 jours de deuil national en Espagne qui cherche toujours à comprendre ce qu'a provoqué la terrible collision entre 2 trains, collision qui a fait 40 morts.
Il faut s'accrocher pour suivre toutes les sorties de Donald Trump qui, ce matin, menace à nouveau la France.
Oui, le président américain a pris la parole avant de monter dans l'avion pour se rendre au Forum économique de Davos qui commence en Suisse aujourd'hui. Romain Houg, on va prendre le temps de tout détailler avec vous ce matin sur RMC. Il est visiblement très en colère contre la France qui contrarie ses plans puisque Donald Trump a une nouvelle idée en tête, c'est de créer un conseil de paix pour concurrencer les Nations Unies.
Oui, en fait, ce serait une instance de gouvernance internationale pour gérer les conflits et les affaires du monde, un peu comme un ONU bis, mais présidé par Donald Trump. Pour qu'un État puisse y siéger de manière permanente, c'est simple, c'est à la Trump, il suffit de débourser 1 milliard de dollars. Alors, de nombreux pays ont reçu une invitation à rejoindre ce conseil, dont la Russie, de Vladimir Poutine. Certains, comme le Maroc et la Hongrie, ont déjà accepté. D'autres sont plus réticents, c'est le cas de la France. Emmanuel Macron a décliné et rappelé son attachement à la Charte des Nations Unies. Réaction immédiate de Donald Trump cette nuit. Ah oui, il a dit ça ? Vous savez, personne ne l'écoute, il ne sera plus en poste d'ici peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200% de taxes sur leur vin et leur champagne, et vous verrez qu'il viendra. Ce matin, l'entourage d'Emmanuel Macron évoque des menaces jugées inacceptables et inefficaces. Les acteurs de la filière viticole, eux, se réveillent en tout cas inquiets. Jean-Marie Fabre, président de la Confédération des vignerons indépendants, était sur RMC il y a quelques minutes et il l'explique. À chaque fois que les États-Unis ont appliqué des droits de douane sur la filière, directement, les ventes ont chuté de 15 à 25%. Nos entreprises ne peuvent pas être en permanence sous la menace de Donald Trump, ajoute-t-il.
Alors, il y a le fond et puis il y a la forme aussi. Donald Trump déteste qu'on lui résiste à tel point qu'il publie sur son réseau social des messages échangés avec Emmanuel Macron. Et c'est peut-être bien une première entre deux dirigeants de grande puissance.
Oui, cet échange privé est réel, confirme l'entourage d'Emmanuel Macron ce matin. 2 messages envoyés donc par Emmanuel Macron. « Je ne comprends pas ce que tu fais sur le Groenland », lui écrit le président français, avant de lui proposer d'organiser un G7 à Paris jeudi après-midi. Donald Trump, de son côté, continue d'accentuer la pression sur les Européens au sujet du Groenland et assure qu'il ne résiste n'existeront pas à son projet d'annexion, comme l'illustre ce photomontage publié lui aussi il y a quelques minutes et sur lequel on le voit planter un drapeau américain sur le territoire groenlandais.
Voilà donc pour toutes les sorties fracassantes cette nuit signée Donald Trump. Voilà dans quel contexte commence le forum économique de Davos en Suisse. Emmanuel Macron doit y passer la journée et Donald Trump y est attendu demain. Nous sommes au matin, ce mardi, d'une nouvelle manifestation de centaines d'agriculteurs à Strasbourg pour continuer le combat, tenter de bloquer le traité qu'on a avec le Mercosur. Ce qu'explique ce matin dans le journal Le Figaro, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, syndicat à l'origine de cette manifestation autour du Parlement européen. Donc, pourquoi cet endroit ? Eh bien, parce que les députés européens doivent voter et un vote majoritairement contre aurait pour effet, eh bien, de geler le processus de ratification. C'est le dernier espoir, en fait, explique ce matin Gérard Lobert de la FNSEA. Écoutez-le dans le Bas-Rhin.
On a déjà une partie de députés qui sont d'accord avec nos positions. Et puis, il y a toute une autre partie qui se tâte, je pense. C'est ça aussi notre travail, de convaincre un maximum de députés qui voteront dans le bon sens, de telle façon à ce que cet accord qui est néfaste pour l'agriculture française, que cet accord-là soit stoppé. Il y a ce dernier jeu à jouer. En fait, c'est cette pression qu'on veut mettre et c'est cette attente que nous avons que les députés nous soutiennent dans cette protection de notre agriculture telle qu'on la connaît.
Alors, puisqu'on parle du Parlement européen, ce sont 2 journées très importantes qui commencent là au procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Marine Le Pen sera interrogée aujourd'hui et toute la journée de demain. Guillaume Bier, chef du service police justice à RMC, c'est vous qui allez suivre ces audiences. On sait que Marine Le Pen a légèrement infléchi sa stratégie de défense par rapport au premier procès, mais c'est quand même loin d'être gagné pour elle. Effectivement, même si elle se montre moins frontale avec les juges et même si elle fait un pas vers l'accusation en reconnaissant à demi-mot qu'un délit a pu être commis, Marine Le Pen en conteste fermement le caractère intentionnel, comme ses coprévenus qui répètent ne pas avoir eu le sentiment ou la conscience d'être en infraction. Une stratégie qui vise à espérer une condamnation moins lourde, mais qui risque de se heurter aux multiples éléments à charge de ce dossier. Les directives de Marine Le Pen, les réunions, les échanges de courriels, les tableaux de financement des salaires de certains cadres du parti déclarés comme assistants européens. Bref, l'existence d'un système tel qu'il est reproché à Marine Le Pen et dont elle va une nouvelle fois se défendre face à une présidente de la cour d'appel très pointue sur le dossier et qui ne laisse rien passer.
C'est cet après-midi que Sébastien Lecornu va finalement dégainer le 49-3 pour faire passer en force donc la partie recette du budget. Il sera sûrement amené à le faire à deux autres reprises, concédant à la fois un semi-échec et un semi-succès. Donc sur sa méthode, le RN et les Insoumis vont déposer des motions de censure. Le socialiste Olivier Faure confirme ce matin que son parti ne les votera pas. Pendant ce temps, c'est le projet de loi sur la fin de vie qui arrive enfin au Sénat, quasiment un an après son adoption à l'Assemblée. Le texte est divisé en deux, c'est une promesse, un engagement d'Emmanuel Macron. Les sénateurs comptent réécrire en profondeur la version des députés pour restreindre au maximum l'accès à l'aide à mourir. Vous allez tout nous expliquer, Solène Leroux. Là où les députés ont voté pour un droit à l'aide à mourir, les sénateurs veulent plutôt une assistance médicale à mourir.
Cette assistance médicale à mourir serait réservée aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Le temps d'étudier la demande, le malade sera peut-être déjà mort en souffrance, insurge Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
On pourrait se dire, enfin le Sénat concrétise le fait d'une aide à mourir, oui, mais dans une loi qui est rendue totalement inapplicable. Donc finalement, ce texte du Sénat ne sert absolument à rien.
Au contraire, assure le docteur Ségolène Perrucchio, ce changement de terme va plus loin car il valide le principe d'un suicide assisté. Elle est présidente de la Société française des soins palliatifs.
Le Sénat inscrit encore plus le texte dans les pratiques de soins, dans la banalité du quotidien, de la relation soignant-soigné. On voit un Sénat qui fait totalement la sourde oreille à ce que disent la grande majorité des soignants. Donner la mort n'est pas un soin.
Défenseurs comme opposants, aussi insatisfaits soient-ils de ce texte, appellent à un débat le plus serein, apaisé possible, dans l'intérêt de patients qui attendent cette loi depuis des années.
Je vous le disais, 3 jours de deuil national commencent ce matin en Espagne, au surlendemain de la collision de train qui a fait 40 morts et plus de 120 blessés dans la région de Cordoue, en Andalousie. La famille royale espagnole sera sur place aujourd'hui. C'est là que vous êtes, Rachel Sadodine, envoyée spéciale de RMC en direct ce matin. On cherche toujours à comprendre ce matin ce qui s'est passé.
Oui, déjà, ce n'est pas un problème de vitesse. Les deux trains roulaient en dessous de la limitation fixée à 250 km/h sur cette portion. Ensuite, le président de la RENFE, la compagnie ferroviaire espagnole, l'affirme, l'erreur humaine est pratiquement écartée. Reste donc la question de l'infrastructure. Citée par le journal espagnol El Mundo, des techniciens travaillant sur les lieux du sinistre à Adamus estiment qu'une rupture de la soudure du rail pourrait être une cause très probable du déraillement. Seulement voilà, selon le patron de la RENFE, la voie a été réparée en mai dernier. Compliqué de comprendre ce qui aurait pu donc causer une défaillance. Le train qui a déraillé était lui presque neuf, ce qui rend cet accident extrêmement étrange, de l'aveu même du ministre des Transports. Le gouvernement espagnol a promis aux familles de victimes une transparence absolue, elles qui pour beaucoup attendent toujours d'être fixées sur le sort de leurs proches. 43 signalements pour disparition ont été enregistrés. Je me trouve ce matin devant un centre où les familles de victimes ont pu passer la nuit, soutenues par des psychologues de la Croix-Rouge, pendant que des secouristes tente encore de dégager des corps des trains accidentés à Adamus.
Et puis je vous signale qu'il y aura 2 matchs de foot ce soir sur RMC. Paris-Monaco en Ligue des Champions, 21h. Le coup d'envoi, c'est l'avant-dernière journée de la phase de poule. Le PSG à Lisbonne chez le Sporting et Monaco à Madrid contre le Real.
C'était le journal de Quentin Vinay.